Apéro spécial playoff, nuit de playoff.
Nuit de playoff qui vient de s'écouler. Trois
quoi
séries. Une série, deux séries qui étaient à 3-1. On est d'accord ?
Et une série à 2-2.
Et une série à 2-2. Et là, ce matin, on a trois séries à 3-2. Voilà, il n'y a pas de série finie. Il y a deux équipes qui avaient la possibilité de finir. Elles n'ont pas fini.
Elles n'ont pas fait le taf. On va en parler en espérant que vous allez bien. On continue, les apéros react. On est là, en fait, vous nous voyez plus que vos propres parents. Et c'est ça qui est intéressant avec cette chaîne. C'est qu'en fait, on est ensemble tout au long de ces playoffs. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Le rythme continue sur cette folie de premier tour. Un premier tour succulent, parce que s'il n'y a pas des perfs stratosphériques astronomiques, par contre, pour la première fois depuis 2014, je crois que j'ai vu passer, on a 6 séries qui sont à 3-2.
On a 6, j'étais en train de
Rockets
faire le calcul.
Rockets Lakers,
ouais.
Wolves Nuggets,
ouais.
Celtics Sixers,
Knicks Hawks,
Knicks Hawks, Raptors Cavs
et Pistons Magic.
Et Pistons Magic.
Pas compliqué, à l'Est, aucune série n'est terminée au moment où on parle.
Absolument, alors que demain, quasiment demain soir, le week-end démarre, donc plein de possibilités,
hey,
peut-être
hein,
le Game 7.
Faut y aller les gars.
On y va, ouais. Parce que là, moi, mon week-end du 1er mai dans le cululu.
Ah bah là. Week-end du 1er mai, on sait ce qu'on fait au moins, c'est bien.
Voilà, on sera avec vous bien évidemment. On a des séries compétitives, on a des 3-0 leads qui sont en train de se réduire, on a des 3-1 leads qui sont en train de se réduire.
Ouais.
On va avoir des matchs incroyables et donc oui, pendant que Wemby et Shea, les Spurs et le Thunder sont en train de rompicher gentiment en attendant leurs adversaires, plein de séries ont avancé. Et donc, on parle de celles qui ont eu lieu hier soir, puisque Détroit devait sauver sa saison contre Orlando à domicile, les Cavs devaient essayer de se dépatouiller des Raptors, et on voulait voir si les Cavs allaient terminer les Rockets. 3-2, personne n'est en vacances.
Personne n'est en vacances. Hey, personne n'est qualifié.
Personne n'est qualifié.
Hein, pas mal d'occasions manquées.
Eh oui.
Mais il faut aussi reconnaître que les équipes qui étaient au dos au mur, c'est-à-dire pour le coup les Pistons ou les Rockets... Parce
même
que bon,
les Cavs,
le Cavs comment ?
Même un peu les Cavs. Je pense que tu voulais pas moins dos au mur.
Non.
Parce que c'était pas éliminatoire.
Voilà.
Mais tu voulais pas perdre à domicile et ensuite aller à Toronto mener 3-2.
Évidemment. Mais je veux dire, genre, les équipes qui étaient en Elimination Game, alors je vais le dire comme ça, ont fait le taf.
Oui. C'est qu'il y avait le couteau sous la gorge et pas dans le bide.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que. On fait quoi chronologique ? Tu peux commencer par exemple par les Pistons.
Ah oui, on va se faire les Pistons dans quelques secondes, tout à fait.
Ils étaient à domicile.
Oui.
Ils étaient menés 3-1. Ils reçoivent le Magic qui leur pose des très gros problèmes grâce à une défense tactique à laquelle les Pistons n'arrivent pas à bien répondre. Et ils ont pris ce match, un match à assez haut scoring.
Bien sûr.
Ah non, mais c'est important de l'apprécier parce que dans cette série, on a vraiment eu deux types de matchs. On a eu des matchs à assez haut scoring. On a aussi des matchs très, très low scoring quand même.
Deux excellentes défenses sur le principe.
Sur le papier et puis pas forcément les meilleures attaques de la Terre non plus.
Ah,
tu vois, voilà. Donc là, on a eu un match à très gros scoring.
On a eu un duel historique. Hein,
deux raisons à cela, exactement. La première raison s'appelle Cade Cunningham. La deuxième raison s'appelle Paolo Banchero. Puisque les deux joueurs nous ont envoyé duel comme ça à un aussi gros scoring, genre historiquement, c'est pas souvent.
Ben, je peux même être encore plus précis. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'ère moderne depuis Jamal Murray versus Donovan Mitchell dans la bulle. C'est la première fois qu'on voit deux adversaires mettre 45 points minimum chacun dans un match de playoff. On avait vu dans la bulle
cette série Jazz Nuggets là.
Jazz Nuggets avec un Donovan Mitchell qui tentait tout, Jamal Murray en face qui prend chaud. Hein, c'était le Jamal Murray de la bulle. Et donc, oui, pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, on vous conseille fort de voir deux garçons qui sont, c'était assez mignon parce que on l'oublie un petit peu, ce sont aussi deux garçons qui sont dans des générations proches, c'est-à-dire que Cade Cunningham est le numéro 1 de sa propre draft, suivi pas très longtemps plus tard par Paolo Banchero, numéro 1 de sa propre draft.
C'est l'année d'après. Non.
Anthony Edwards, Cade Cunningham, Paolo Banchero.
C'est ça, voilà, c'est l'année juste après. Je vais vérifier, j'ai un doute.
Je vais confirmer, mais pareil, je pense qu'on doit être sur ces QV-là, puisque Paolo Banchero jouera 2022 et Cade 2021.
Pour moi, ça se suit, j'arrive tout de suite.
On a dit ça Edwards en 2020.
Attends. Donc, Paolo Banchero, c'est la 2022. Est-ce que Cade.
2021.
Alors, excuse-moi, c'est que ça mouline un peu là.
Ouais, Jalen Green en 2022.
Cade en 2021, Banchero en 2022, c'est bien ça, ça se suit.
Et donc, c'est intéressant, c'est que ces deux copains de AAU, c'est des mecs qui se sont affrontés.
Et puis, ces deux gars qui sont arrivés dans des franchises où on misait beaucoup sur eux pour devenir les visages de franchise, des franchise players. Deux gars qui sont devenus All-Star dans ces mêmes franchises, qui ont subi Cade Cunningham au début des critiques et Paolo Banchero plutôt là récemment des grosses critiques et tout. Et qui là, dans un match très important pour leurs équipes, envoie du sale.
Du très très sale.
Cade est reparti avec la win, pas Banchero. Ah, pour le coup, c'est pas sur ce match-là qu'on va pouvoir critiquer trop Banchero.
Ah bah, j'ai même envie de dire, faisons le contraire, s'il vous plaît, parce que c'est facile de taper sur Paolo.
Non, on là, a parlé là, dans la preview. Là, c'est du lourd.
Et moi, j'étais le premier à dire, attention, il va falloir aussi mettre du respect.
Il fait sa série, hein, ce match-là est
merci.
Ouf.
Merci. Ouais. La série de Paolo Banchero, quand ça rentre pas offensivement, il se donne fort en défense.
Rebond aussi, rebond passe, il est présent.
Hier, on enlève Franz Wagner de la rotation. Attention le mollet, attention à ces histoires, parce qu'en ce moment les mollets en NBA, t'en as chine,
Franz Wagner, là, le physique et l'enchaînement des pépins de santé de Franz Wagner,
c'est chaud.
Il va falloir qu'on en parle quand même à un moment donné, parce que ça handicape vachement le Magic. Hein.
Tout à fait, il y a 18 points quasiment comme ça en dormant hein, de Franz Wagner envoyé.
Tout ce qu'il attire, la création,
à côté.
Il oblige la défense, ouais, il mettait Oscar Thompson hein, sur lui quand même.
Et on avait vu un Game 3 à Bordeaux terminé par Franz Wagner notamment, où il avait été super héroïque dans le
Et
même.
Par Paolo quand
Et
même.
Par Paolo tout à fait. Mais hier Paolo c'était formidable, sauf au lancer franc, on va en reparler. 45 points, 7 rebonds et 9 passes à 17 sur 31 au tir. J'ai un big sur moi, let me step back et être dans une bonne soirée à
et
3 points.
Et je le mets
6 sur 11 à 3 points.
J'ai un petit, je l'emmène où je veux en fait.
Je l'emmène où je
Parce
veux
que je suis Paolo Banchero à Paris, à Nice et quelques gars comme ça, il y a pas grand monde de plus athlétique et puissant que lui hein.
C'est très
en
compliqué,
NBA.
Tout à fait. Et le théorème se confirme hier soir avec Paolo Banchero. Paolo responsabilisé et pour qui le shoot extérieur est en forme, c'est un enfer absolu sur terre.
Évidemment, de toute façon, Paolo.
Eh oui, mais tu vois, pour beaucoup de joueurs, on a dit ça. Hein.
Non, bien sûr, mais là.
Les arrivées de grands joueurs physiques, on disait, eh ben, si ça commence à rentrer à 3 points, comment est-ce que tu veux faire ? Bah, tu peux pas faire grand-chose. Alors que Détroit, c'est quand même pas la moitié d'une défense. Il a fait le boulot, il y a eu quelques moments un peu chippy avec Desmond Bane parce que c'est comme d'habitude.
Parce que c'est le Magic, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'en face, c'est aussi des gars, ils rentrent dedans et tout. Enfin, tu vois, il y a des deux côtés, de toute façon, on l'avait dit, c'est une série où ça va chicoter. Hein.
Ah, tout à fait.
C'est pas une surprise, ça.
Pour autant, si sur le score final, vous le voyez, il y a 7 points d'écart, précisons quand même, Détroit a le match.
Oui.
Détroit a le match très tôt, construit un lead. Orlando a souvent été à la traîne dans la rencontre. A essayé de recoller à 3, 4, 6, 10 points, 6, 7 points, mais Détroit est monté parfois à 15, 17 points d'avance. Et même dans ce quatrième quart où tu as Détroit qui a l'air d'avoir. C'est bon, hein, le match en main. C'est un nouveau dernier coup de chaud de Paolo Banchero qui les ramène à 3 points, mais sinon c'est une win contrôlée des Pistons.
Exactement, et c'est honnêtement, c'est le meilleur match de la série jusqu'à maintenant.
De Détroit.
Hein. Même de la série, moi je trouve, parce que même Orlando a fait un plutôt bon match. En fait, Détroit gagne un vrai match dans lequel Orlando. C'est pas genre Orlando était nul, machin. Ou... Non, ils avaient pas Wagner. Mosley, par exemple, parce qu'on le critique souvent lui aussi, il commence avec Jamal Kane, si je dis pas de bêtises. Et bon, en fait, c'est Anthony Black surtout qui a eu du temps de jeu. Et qui a été bon d'ailleurs. Ah. Tu vois. Et c'est des choix tactiques assez logiques. On fait chier Détroit sur certains points et tout. Enfin, en gros, il y avait une vraie réflexion stratégique. En face, mine de rien. Tout d'un coup, là, ça nous ressuscite Caris LeVert.
Ouais.
C'est vrai ou pas ?
Un petit peu, oui.
Bah, il a joué combien ?
Oui, il a joué 25 minutes.
Non, mais par rapport au reste de la série, donne quoi en niveau minutes pour LeVert ? C'est moi qui ai rêvé ?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai eu l'impression,
c'est que
en matant,
match n'est pas...
Ah non, alors, c'est pas ce que je dis, mais en matant le All Possessions Game ce matin, j'étais là genre... Caris LeVert, il est beaucoup là. Donc, quelle est l'idée ? L'idée, c'est d'avoir une création différente, c'est d'avoir un autre mec, Bolender, de tenter. En gros... Je dis pas que Caris LeVert a fait un match de fou, mais c'était pas si minable, hein, attention. Je dis juste que côté Kenny Atkinson, lui aussi il se dit attends. Merde.
Jamal Mosley ou JB Bickerstaff.
Côté JB Bickerstaff, ouais.
On va parler
Atkinson,
après Atkinson.
C'est les Cavs.
Dans quelques minutes.
Et voilà, mais comme il coach à la Bickerstaff en ce moment,
je les mélange.
Non, pardon, excuse-moi. Côté Bickerstaff, ils se sont dit ok, on a quand même ce mec sur le banc. Et on voit bien qu'on a besoin de variété, donc on va le tenter. Il y avait un plan pour ce Game 5, côté Détroit, il y avait des plans, mais parmi les plans, il y en avait un qui consistait à dire « Caris LeVert, on va essayer, balle en main, machin et tout. »
Percussion,
enfin en gros de la création balle en main, ce qui est un sujet en dehors de Cade sur cette série playoff, un sujet dont Orlando se délecte, on l'a déjà expliqué avec Bastien, en coupant Jalen Duren du ballon et tout. Et donc je veux juste vérifier, notre ami Caris LeVert, il avait déjà joué au match d'avant pas mal, et sinon c'est du 4 minutes quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est dans ce sens là que je veux dire,
il a ressuscité dans la rotation.
Il ça y est, ça fait deux matchs de suite. Caris LeVert est revenu dans la rotation. Est-ce que c'est bien, pas bien? Au moins, on voit l'idée.
Tout à fait.
On voit l'idée.
Je vois ce que tu veux dire. Je pense que celui qui en pâtit le plus, notamment, c'est Dennis Jenkins, oui, qui a été une des très très belles stories de Détroit cette saison. Hein, un des meilleurs backup meneurs qu'on avait vu du côté de Détroit. On savait, oui, que l'année dernière, il comptait pas mal sur Dennis Schroeder, notamment, qui avait été récupéré à la deadline. Jenkins fait un formidable travail dans les moments où, notamment, Cade était blessé et était absent. Là, c'est une série qui est compliquée pour Dennis Jenkins. Donc, oui, Caris LeVert a été réinstauré un peu plus dans la rotation.
On a rien de fou. Hein.
Encore et toujours une série très solide de Tobias Harris qui confirme. Les spots sont là pour qu'il puisse les exploiter. Il les exploite. Encore un super match de vétéran de la part de Tobias.
Ouais.
Donc ça là-dessus, on peut compter.
Galère dessus en défense sur Paolo, mais pfiou, qui ne galérerait pas là. Enfin, c'est compliqué. Enfin,
un peu difficile. Et pour autant, c'est Cade qui voit ce qui se passe en face et répond bien comme il faut tout au long de la rencontre, et notamment dans ce Money Time, ouais, lorsqu'il a fallu rentrer du très très gros buckets. Ouais. Pareil comme pour Paolo, lorsque Cade a le shoot à 3 points qui rentre hier soir, 5 sur 8 à 3 points hier. Ouais, ouais. Trop compliqué parce que derrière...
Il s'infiltre, il va chercher des lancers, il trouve ses mid-range, il trouve des espaces, et pourtant ils en ont aussi, il y a des couvertures. Hein. Et puis ils en ont des joueurs à mettre. Hein.
Ah, mais quand Cade joue comme ça, c'est niveau All-NBA hier.
C'est monstrueux. Là, ils ont envoyé du Jalen Suggs, du Desmond Bane, du Anthony Black, du Jamal Kane et tout. Enfin, genre, ils ont vraiment essayé énormément de choses. Ils ont essayé par moment de prendre un peu haut pour essayer de lui faire lâcher la balle. Le mec, il t'a trouvé les solutions. Hier soir, il faut le dire, Cade Cunningham a fait un immense match de playoff dans la qualité de finition. Voilà, bah, si on vient de le dire, quand les trois points rentrent et tout, dans les choix. Franchement, il s'est quasiment pas trompé.
Enfin, non, c'était exceptionnel.
Il y a quelques pertes de balles malheureuses. Allez, il y a une ou deux pertes de balles malheureuses, tu vois, genre, entre guillemets, évitable. Il y a une passe un peu lazy à un moment. Voilà, je l'ai en tête, mais franchement.
C'est Cade Cunningham.
Ça fait partie de ses très grands matchs de playoff. Et comment il va bien chercher les lancers. Non, mais... C'est très, très malin. C'est...
Quand ton franchise player se rend compte, notamment avec son équipe, et il le disait en sortie de déplacement à Orlando, qu'ils doivent et ils peuvent faire mieux. Et que le meilleur joueur de ta franchise dit « Je sais que si ce match, on le perd, on est en vacances. »
Et l'autre, il envoie ça.
Et que l'autre, il envoie ça, c'est très très fort. À tel point, quand on parle d'histoire, on vous a dit avec le duel est très très fort, je vous remets quand même, parce que Alex, je sais qu'aussi, toi historiquement, comme bien des gens, tu aimes cette franchise de Détroit. Disons les termes, Cade Cunningham a planté le plus gros total de points dans un match de playoff de l'histoire des Pistons. Magnifique. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que Cade, qui est en train de construire gentiment, petit à petit, sa légende à Détroit, je ne vais pas sortir de nom de franchise, les Charlotte Hornets, par exemple, parce que je n'ai pas envie de me faire clasher par tout le monde, mais quand tu es le meilleur scoreur dans un elimination game de l'histoire d'une franchise comme les Pistons, ça te pose quelqu'un quand même.
Oui, c'est clair.
C'est-à-dire que les Pistons, il y a 2-3 bannières, il y a des histoires quand même.
Il y a 3 bannières.
Exactement. Il y a quoi ? Il y a plus de 50 ans d'histoire quand même avec les Pistons.
Ah, oui, large.
Large.
Oui, donc, du coup. C'est une énorme équipe, c'est une immense franchise. C'est intéressant parce que Cade Cunningham a un talent offensif en termes individuels qui, effectivement, dans l'histoire des Pistons, n'a pas trop d'égal. J'adore Isaiah Thomas,
moi,
c'est un de mes joueurs préférés. Isaiah Thomas, c'est un de mes joueurs préférés, offensivement, peut-être en termes de handle, de passe et tout, machin, mais en termes de scoring, Cade Cunningham, après, tu mets Isaiah Thomas dans l'ère actuelle, les 45 points, il y a quand même des chances qu'il tombe. Oui. Mais bon, tout ça, c'est des hypothèses, quoi. Donc franchement, félicitations à lui. Et en plus, honnêtement, c'est au bon moment aussi.
Ah,
parce
que
là, ce qu'il faut capter, c'est, ok, Banchero fait un match de ouf, mais Banchero, il n'avait pas la pression de l'élimination. Là, Cade Cunningham, il est rentré sur le terrain devant son public à Détroit en mode « Putain, si on peut... »
Ouais,
plus, voilà.
En plus, il est doux. Enfin, c'est
franchement,
il y en a un
respect.
Il y en a un seul auquel je pense quand tu refais un peu l'historique.
Vas-y.
De Détroit. La plupart des plus jeunes qui nous rejoignent peut-être ne s'en souviennent pas, mais les tout débuts de Grant Hill à Détroit,
oui,
on s'en souvient,
ouais,
un petit peu, et je vous invite à aller le voir parce qu'offensivement c'était très fort. Dans ce côté un peu big guard, capable d'avoir la main et de casser n'importe quelle défense.
Mais après, c'est vrai
que
Grant Hill était plus un ailier très all-around qui scorait, mais
big guard,
très all-around.
Bien sûr, bien sûr.
Cunningham, c'est un scoreur fabuleux qui...
On sous-estime souvent sa défense, je trouve.
Qui, voilà, mais qui défend de manière très honorable et qui est capable aussi de créer, d'être un bon passeur, attention, hein, mais c'est avant tout un joueur de scoring.
Ah, tout à fait. Détroit fait le boulot. Orlando, un des regrets que tu peux avoir, premièrement, c'est que c'est le Paolo Banchero game. Hein. Alors, on espère qu'il va en avoir d'autres, hein, parce que pour finir ces Pistons, il va falloir d'autres grosses perfs. Mais généralement, tu sais, quand tu as Paolo qui évolue à un niveau pareil, il faut l'apprendre cette opportunité. Je crois que le plus gros regret côté Orlando, c'est notamment au lancer franc, parce que Paolo, lui, le premier, il y a eu du déchet. On est à 5 sur 12 au lancer. Orlando finit à 16 sur 30. 16 sur 30 au lancer franc, alors que tu es à 45% à 3 points. En gros, c'est
12,
la fête nationale.
Banchero, il a 5 sur 12. Oui. Que t'as aussi Jamal Kane qui a 3 sur 7.
Ouais, hein. Tout à fait. Mais donc, quand t'as Orlando qui a 45 points de Banchero et qui est à 45% de réussite à 3 points.
Tu rates 14 lancés. Wow.
Rien que ce truc, tu vois, de Paolo plus réussite à 3 points, normalement, c'est la fête nationale,
ouais.
Orlando.
Et c'est... Non, mais c'est clair.
Et
c'est...
tu perds notamment parce que t'es clair. À la traîne et que les lancers n'étaient pas
dedans. C'est
une
défaite qui peut laisser des regrets. C'est aussi une défaite où, si t'es le Magic, tu peux le prendre dans l'autre sens. Tu peux dire, ok, on en a pris 45 de Cade. Tobias Harris était quand même sacrément en forme au tir. Okay.
Oui.
Et pour autant, notre plan défensif a continué à fonctionner. Du run coupé du ballon, on oblige les autres joueurs à faire des choix. Et malgré 45 de Cade Cunningham et 23 de Tobias Harris, malgré ça, on est complètement dans le match. Donc tu peux aussi le prendre dans ce sens-là. Mais effectivement, tu as raison, Bastien. C'est clairement un match où malgré les 45 points de Cade, t'as quelques petits lancers qui rentrent, et ben en fait, ça se trouve. Non, malgré 45 de Cade, t'as quelques lancers qui rentrent côté Magic, quelques lancers en plus, et tu le prends quand même, en fait. Et nous, on est là en train de faire un débrief. Putain, Cade Cunningham, il a tout donné, mais.
Mais les Pistons sont en vacances.
Voilà. Et là, non. Donc là, maintenant, il va falloir retourner à Orlando.
Match 6. Ce sera du coup vendredi, j'imagine, hein, sauf Cataclysme.
Je sais pas, attends, je regarde.
Je pense, hein, c'est je mercredi, vendredi, dimanche, je crois. Gros,
là, je te dis que les mecs qui font le calendrier NBA, ils sont là, ils font. C'est quoi ce bordel, c'est le vendredi. Premier tour là on...
Quasi sûr que c'est vendredi, je vais vous le remettre là, à l'instant sous les yeux. Parce que
je
les
mets
copains,
le schedule là, bouge pas.
On s'est mis le tweet d'ailleurs un peu plus tard.
Cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, non, évidemment. Oui, c'est dans la nuit, voilà. C'est à 1h du mat, dans la nuit de vendredi à samedi.
Je vous montre le tweet là à l'instant.
Et ça sera un petit peu mangé par le prochain match qu'on va débriefer, c'est-à-dire qu'à 1h30 du mat, il y aura le match 6 à Toronto entre les Raptors et les Cavs.
Absolument.
Faudra deux écrans. Pour ceux qui sont en direct, faudra deux écrans.
Tout à fait. Fan du Magic et fan des Pistons, évidemment. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça en espérant voir un stream avec du rosé le lendemain, comme certains ont la référence. Avant de basculer sur Toronto, vous avez peut-être vu l'info. Et on l'a fait tourner fort. Je sais que la commu de Dijon et de la Bourgogne a répondu très très fort. Foncez dans le premier lien en commentaire, car le jeudi 21 mai 2026, on sera au cinéma L'Eldorado de Dijon pour un apéro collector en public. On a fait Paris, on a fait Strasbourg, on a fait Metz, on a fait Nantes. Désormais, petit retour plutôt sur la East Coast pour aller voir nos amis à Dijon.
C'est la centrale hein, plutôt. Ah, quoi que non,
on
c'est
est
pas
dans la centrale est hein, quand même. Hein.
Centrale, la East Central, comme on dit.
Tout à fait. On sera donc
c'est
là
pas
le
la
21
South
mai.
East. Hein.
Non, pas trop.
C'est mais... l'Est. Allez, on va mettre ça dans. Mais vraiment, c'est un.
C'est un virage.
Allez, c'est quand même l'Est. Si, c'est l'Est. Allez, Dijon, vous êtes dans l'Est.
On se permet dans tous les cas, vous pouvez foncer. Il y a déjà des places qui partent fort. Nous, on a très très hâte. C'est dans 3 semaines.
C'est dans 3 semaines. C'est le 21 mai, un jeudi soir. Comme d'hab, on ouvrira les portes vers 18h. L'émission en public, elle a lieu de 19h à 20h15, ouais, voilà. Quoi, en gros. On parlera de l'actualité. Hein, on sera en pleine finale de conf.
C'est pour ça, les Knicks Nation, là, si ça se trouve, vous serez encore là.
Knicks Nation! On aura du Knicks Nation dans la salle.
Je sais qu'il y aura des fans des Knicks qui
Magnifique.
Seront présents, qui m'ont déjà dit ouais, on va être là, et si ça se trouve les Knicks seront encore en vie.
Si ça se trouve ils seront dans l'actu. Je tout à fait. Ah bah, on leur souhaite de mettre leur plus beau maillot dans ce cas-là. On pourra causer donc des finales de conf. On parlera certainement également draft. On aura eu la loterie juste avant.
Loterie historique puisque c'est une des dernières loteries avec un système qu'on peut encore comprendre. On en reparlera sur YouTube par la suite.
Ça, alors là, le comprendre, c'est pas le sujet. Hein. C'est le sujet, c'est de se projeter, d'essayer de savoir si c'est bénéfique, pas bénéfique et tout. Il y a beaucoup d'avis qui.
J'ai ma réponse.
On fera peut-être une vidéo dédiée à ça.
Oui. Laisse-moi vomir dans un seau, ça sera en.
Oh, t'es
en
dur tout de suite.
Non, mais on aura plein de choses à devoir dire. Dans tous les cas, vous pouvez foncer, allez-y sur ce petit apéro collector. Et puis après, on vous parlera d'une autre petite annonce, puisqu'on a une série là à débriefer et on s'occupera après de Rocket Stakers. Alex, on avait vu. Au Grand Rex, Game 4, remporté par les Raptors dans un match, je ne sais pas si c'est des tranchées ou si c'est juste le rendez-vous des ophtalmos parce qu'il n'y avait personne qui pouvait rentrer un shoot. On s'est ramené en Game 5 avec beaucoup de pression sur beaucoup de joueurs. Et on a une victoire des Cavs dans un gros quatrième quart-temps. Soyons d'accord, mettons tout de suite les choses au clair par rapport à ce qu'on a dit là sur Orlando Détroit.
Tu sais qu'à la mi-temps, t'es fan des Cavs,
tu claques des dents.
Tu tousses. Hein.
Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la différence du Orlando Détroit qu'on vient de débrief, autant Détroit a été en contrôle et s'est fait un petit peu peur à la fin, autant là, Cleveland, on a claqué des fesses pendant 36 minutes et on a eu une très belle aide, notamment germanique, et on parlera d'autres joueurs sur le quatrième quart-temps. Les Cavs font le nécessaire dans le quatrième quart.
Font le nécessaire en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire même. Mais parce qu'il faut bien comprendre qu'à la mi-temps, les Cavs avaient encaissé, d'accord, 74 points par l'attaque des Raptors.
Bah ouais.
J'ai envie de, tu vois, j'ai envie de, voilà.
Bah, impeccable.
Ouais.
Sachant que Brandon Ingram sort au bout de 10 minutes. Hein.
Et en plus, oui, Brandon Ingram se blesse.
Pour ceux qui ne l'ont pas, incertitude sur le Game 6 parce qu'inflammation au niveau du talon.
Talon. Contusion, moi j'ai compris. Inflammation, c'est, on va regarder ce que c'est. Mais en tout cas, il est sorti. Ouais, il a joué 10 minutes. Il a pas eu le temps de mettre deux points. Si, tiens, il a un point. C'est quoi ce point?
Il a un lancé.
Il a mis un lancé, tout à fait. Bref, concrètement, à la mi-temps,
on est pas
c'est
bien,
pas du tout. Alors, ce qui est bizarre à la mi-temps, c'est que les Raptors sont devant de 7-8 points. Je crois que les Cavs, ils en mettent 67, je crois, de mémoire. Mm-hmm. Je crois qu'il y a 74-67. Donc, ils sont devant de 7 points. Et autant les Raptors sont devant, autant sur ce genre de score, on n'est pas du tout dans un Raptors game. C'est-à-dire que si vous nous aviez demandé à Bastien et moi avant la série, genre quand il y a une mi-temps vers les 70 points, qui c'est qui est devant, moi je te dis Cavs tout le temps. Parce que je te dis.
On l'a dit dans la prévue.
Mais bien sûr qu'on l'a dit, tu vois. Mais voilà. Alors que là, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, là où c'est flippant à ce moment-là pour les Cavs, c'est que t'encaisses 74 points en une mi-temps contre ces Raptors-là, c'est pas normal, même si Scottie Barnes est en feu et
Jacoby Walter
rentre des tirs et tout. Attention, bien sûr, il y a
RJ
surtout était en feu, d'ailleurs, plus que Scottie Barnes sur le match dernier. Mais c'est inquiétant et en même temps, tu te dis, bon, si ça continue sur ce genre de gros rythme, finalement, peut-être que les Cavs peuvent prendre l'avantage. Et là encore, c'est pas vraiment ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, puisque finalement, en deuxième mi-temps, le rythme a baissé. Les deux défenses se sont resserrées. Et là, à l'inverse encore de ce que j'aurais pu dire personnellement avant, là, quand ça se resserrait tout, ce sont les Cavs qui ont tiré leur épingle du jeu. Grâce, tu l'as dit, ça se resserre quand même en deuxième mi-temps.
Oui, non, mais je vais...
Ça défend mieux. Il y a eu quelques ajustements intéressants défensifs des deux côtés. Ça shoot du coup un peu moins bien parce que ce sont deux équipes. Là, on voit bien depuis le début de la série, dès que tu leur mets un peu la pression, les deux équipes, ça shoot moins bien.
Ouais.
Donovan Mitchell, where is Donovan Mitchell là, depuis deux matchs là. Moi, je suis pas vraiment.
Il y a de tout hein, autour de Kenyon Kidson. Il y a des gens qui sont très fans des choix qui sont faits. Il y en a qui ont envie de dire.
De Kenyon Kidson, il y a des fans là.
Il y a des gens qui sont fans de
ce que fait Kenyon Kidson. Ah, je sais pas, je les ai pas vus moi.
Il y a des gens.
J'ai eu beaucoup de critiques moi. Puis je suis assez d'accord d'ailleurs.
En effet, le critique à juste titre. Mais il y a aussi des gens qui disent, et je peux l'entendre, que lorsque ce match se retrouve dans le caca et qu'il faut ne pas toucher aux égos, ne pas faire attention et dire Dennis Schröder, voici le ballon, t'es peut-être pas forcément la superstar, etc. C'est un bon choix.
Ah, non, ça, je valide. Et Dennis Schröder, qui le rend bien à son entraîneur.
Et qu'il a fait
un quatrième quart.
Bien sûr. Et d'ailleurs.
Mais
quand...
ça se fait au détriment de qui, quand même, ça, de Donovan
Mitchell. Mais bien sûr.
Voilà, c'est pour ça que j'en
parle. Le choix d'un entraîneur de dire à Donovan Mitchell, qui est peut-être, on va pas se mentir, le meilleur joueur, c'est même pas peut-être, c'est le meilleur joueur de la franchise, le joueur le plus important de ces dernières années.
C'est pas le meilleur joueur de cette série. Hein.
Non, mais d'être un coach et de dire à ce moment-là, c'est à Dennis Schröder de venir nous aider par rapport à ce qui se passe sur le parquet. Oui, je vais être le premier à déverser un tonneau de caca sur Kenyon Kidson pour certains choix qui sont faits, notamment
non,
sur le secteur intérieur.
Mais
ça, c'était un bon choix. Et un dernier truc, et après, promis, je ferme la parenthèse. T'as été, comme moi, le premier face caméra à dire « Oui, bonjour, est-ce qu'il existe Evan Mobley ?»
Ah oui, ah bah non, mais attends, j'y viens, évidemment. Ah non, bien sûr, et c'est cool. Evan Mobley regarde les apéros.
Voilà.
Le mec s'est dit, putain, qu'est-ce qu'ils ont dit, trash talk. Qu'est-ce qu'ils ont dit, trash talk à 2-2.
Oui.
Et voilà, il a vu le petit coup de gueule qu'on a poussé. Et oui, bien sûr, notamment en deuxième mi-temps, quand son équipe en avait besoin, Il a pris ses responsabilités en attaque et les tirs sont rentrés, donc ça c'est super, tant mieux. Mais même, moi c'est même il n'y aurait pas ça,
non, au global,
je serais content.
Eh oui.
Genre, il est venu, il a mis son corps en opposition à plusieurs reprises. Kenny Atkinson du coup a décidé de jouer plus souvent small qu'avant, et c'est Jarrett Allen qu'on a fait les frais, pas Evan Mobley, parce que finalement Evan
Mobley,
je crois
qu'il est allergique à faire jouer les deux ensemble.
Non, bah il est titularisé à chaque fois déjà, donc ils ont quand même des minutes ensemble, hein.
Pas assez, je trouve, mais oui.
Tu penses?
Ouais, je trouve.
Je suis pas sûr, moi. Moi, je pense que pour le coup, je pense que les Cavs ont vraiment un coup à jouer. Je suis pas sûr. Je sais qu'ils ont des sujets, parce que y a, c'est qui les ailiers? C'est Jalen Tyson que tu mets ou Dean Wade? Je comprends la problématique, mais moi, avec un Evan Mobley dont je ne pense pas qu'on ait encore vu le plafond, mais parfois j'ai des doutes, donc je ne sais jamais trop comment me positionner sur lui en ce moment, c'est difficile. Non, mais c'est vrai. Mais quand il se craque là, et qu'il y a le bon côté avec les shoots qui rentrent, mais de l'autre côté du terrain, là où on l'attend vraiment, il y a vraiment un côté sécurité de la raquette, il y a un côté grand, mobile, capable de protéger le cercle, venir se battre au rebond, ne pas, du coup, bah en fait, du coup, t'es pas une liability, comme on dit, en attaque, parce que tu es capable, en plus, surtout ce soir-là, de mettre tes tirs ou d'être dangereux et tout ça. Et donc là, j'ai vraiment bien aimé sa deuxième mi-temps. Donc oui, on le dit. Et effectivement, bah, dans un match chelou, parce que première mi-temps très prolifique pour les deux équipes, deuxième mi-temps moins prolifique, des défenses qui s'ajustent, on arrive un peu dans un côté à combat, c'est serré, je veux dire, la fin de match elle est serrée, il faut les gratter les ballons, il faut gagner les rebonds, enfin tout ça, et ben là ce coup-ci c'est Cleveland qui s'en est sorti,
ouais.
Et félicitations à eux, malgré un Donovan Mitchell que vraiment j'ai trouvé pas bon sur ce match. Sa ligne de stats fait qu'elle est pas bonne à l'échelle d'un Donovan Mitchell, mais en plus elle fait quasiment illusion par rapport à son vrai rendement, c'était vraiment pas terrible. Genre Harden, pour le coup, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je veux dire, j'ai rien à dire de négatif. Je veux dire,
où sont les Cavs dans cette série sans Harden?
Oh là là, c'est le meilleur joueur des Cavs de la série, hein, je pense. Hein. Pas toi? Non, tu penses ou pas?
Si, mais tu sais ce
pourquoi
qu'on
tu fais comme ça?
Parce que c'est le sujet le plus clivant. Parce que le jour où il y a eu le transfert, il y a eu du oh non, ça va pas être possible. Mais moi, je pense qu'il y a des fans des Cavs qui doivent être schizophrènes en ce moment quand ils voient la série de Harden. Parce que je suis désolé, c'est le meilleur joueur des Cavs, comme tu le dis très très bien. Il y a des situations face à une excellente défense de Toronto.
Non, franchement, il fait des choix de fou furieux.
Qu'il casse malgré beaucoup de ballons perdus, il casse des choses, mais de manière tellement intelligente que du coup, oui, il y a des ballons perdus, il y a du déchet, mais il faut bien se dépatouiller de cette très bonne défense de Toronto.
Sur des matchs comme ça, il est efficace.
Et sur des matchs comme ça, pardon.
Il est efficace au tir.
Excusez-moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de l'équipe hier soir.
À égalité, rebond point avec Mobley. Hein. Faut le dire.
Oui, tout à fait. Mais donc, en tout cas, meilleur marqueur, égalité, meilleur rebondeur et meilleur passeur d'une équipe dans un match où tu peux pas te permettre de perdre. Juste pareil sur Harden, disons les choses, parce qu'il y a plein de gens qui vont attendre qu'il se fasse caca dessus, comme ça a été le cas là sur le match à Toronto où on attendait mieux. Pour autant, c'est marrant parce que, comme tu le dis, c'est important en effet de dire les Cavs ont été chercher ce match.
Ils sont allés
chercher.
Dans une configuration où, pour le coup, j'ai eu vraiment peur pour eux. J'aime pas cette configuration de match. Ça arrive serré vers la fin, va falloir se battre, va falloir s'arracher. Toronto va rien lâcher et tout.
Oui.
Et ils l'ont fait. Alors, c'était à la maison et tout, mais ils l'ont fait. C'est bien.
Et pour autant,
ouais, vas-y.
Ce n'est pas une victoire qui m'a énormément rassuré.
Ça dépend des angles.
Par rapport
y a des
à ces
points
Cavs.
Où... C'est-à-dire vas-y, que... dans quel angle bah, enfin,
je...
quel...
En fait, ouais. Je trouve que si tu es Toronto, ouais. Tu te dis, attends, juste, déjà, oui, il n'est pas très très bon sur cette série, mais on est sur un match qu'on perd dans le quatrième quart alors qu'on a 10 minutes de Brandon Ingram. On peut aimer ne pas aimer Brandon Ingram, on l'a vu sur le game 4 quand il faut rentrer des gros tirs en fin de match et provoquer un petit peu des mismatchs.
Puis la défense est obligée de s'occuper de lui.
S'occuper de lui, donc c'est chaud. Alors, donc déjà, t'en es là.
C'est une option, quoi.
Ouais. De deux. Mm-hmm. C'est un fait de match que certains ont peut-être pris un peu à la légère, mais je vais la remettre sur la table. Scotty Barnes, la première mi-temps, parce que Scotty Barnes est le meilleur joueur de cette série. Ça, je crois
pour
que
l'instant, là,
tout
oui.
Monde, je crois que tout le monde est en train de comprendre quel est le niveau de Scotty Barnes des deux côtés du terrain. C'est une superstar sur laquelle tu peux essayer de vraiment construire ton projet. Moi, je le pense. Là, il est en train de montrer en playoff. Ouais. Et du coup, Scotty Barnes, sur la première mi-temps, il est exceptionnel. C'est le meilleur joueur de très loin sur le parquet des deux côtés. Transition, il pousse en défense.
Ah, les passes.
Il nourrit peut-être.
Quand il est comme ça, il... Ouais, ouais.
Il voit un gars plus petit ou un Jarrett Allen. Allez, il le petit Fedor et tout. Scotty Barnes se blesse à la fin de la première mi-temps. Il se prend un contact à la cuisse où il a rassuré les reporters en disant qu'il serait là pour le Game 6 et il n'y a pas de problème. Mais ça se voit sur la deuxième période. et bravo à Evan Mobley d'avoir aussi tapé là-dessus parce qu'il y avait plus d'espace, c'est que Scotty Barnes, qui est le meilleur joueur de la série, n'était pas autant au niveau sur la deuxième mi-temps. Et donc, quand j'entends que Brandon Ingram n'était pas là, que Scotty Barnes s'est un peu blessé, et que Darko Radakovic est très très énervé parce que les Raptors ont encaissé 125 points, bah pour moi, il devrait avoir 125 à 98.
Oui. Oui.
Et donc, si tu es Toronto et que tu rentres à la maison, bah il y a grave la place.
Oh bah, je suis d'accord. Il faut que Scotty Barnes puisse jouer. On va voir pour Brandon Ingram.
Ah, je pense que c'est chaud, ouais. En tout cas, il est questionable là, sûr et certain.
Brandon Ingram, c'est vraiment pas gagné. Et je veux dire, quand je dis que Scotty Barnes puisse jouer, j'espère qu'il va pas être gêné. J'espère que c'est une petite béquille. Et...
Il a dit qu'il serait full go, pas d'inquiétude.
Voilà.
Et oui, je voulais ton avis un peu par rapport à ça. Si t'es fan de Toronto,
non,
comment est-ce que t'observes le 6?
J'entends. Si t'es fan de Toronto, t'as tous les arguments, t'as vraiment des vrais beaux arguments pour te dire, ah oh, putain, on aurait pu le prendre, mais en même temps, vu les éléments et tout, on le perd de justesse. Notre attaque a vraiment fonctionné et tout. Et donc à la maison, on peut faire quelque chose. Sauf que il y a quand même un paramètre, c'est que Toronto ne prend pas un match dans lequel Toronto a vraiment bien shooté. Bon, sauf au lancer. Hein. Pareil, là, je l'ai lancé. On vient de parler du Magic. T'as... C'est voir les lancers, Toronto bouge
17
pas,
sur 25.
Bon, ça va. J'aurais dit pire. Mais en fait, on lâche 8
quand même. Voilà.
Dans un match serré, c'est... Enfin, toi, les Cavs, on lâche 7. Donc, j'aurais dit pire. Tu vois, j'ai eu une sensation de pire. Bon, bref. Comme quoi, il faut vérifier les stats. Donc, ouais, il y a le bon côté. Mm-hmm. Tu te dis, ouais, quand même, Brandon Ingram, on verra, Scotty Barnes, nanana, on a bien joué, on a perdu que de 5 malgré les éléments. Mais, t'as un autre élément, c'est que t'as perdu alors que t'as bien shooté. Ça, t'as perdu alors que t'avais fait une première mi-temps, genre ultra prolifique, quoi, genre un truc de fou. Donc, ça, c'est un côté un peu qui peut inquiéter côté Raptors. A contrario, côté Cavs, tu vas à Toronto. Tu peux te dire, attends, c'est cool, on a réussi à arracher ce match 5, mais clairement, tu ne peux pas aller à Toronto et défendre aussi mal. C'est pas possible, en fait.
Sachant que Toronto ne doit pas défendre aussi mal que là, ils l'ont fait. Sur
premièrement, et sachant que toi, on va voir, mais genre là, Evan Mobley a bien shooté, Harden, bon, il a perdu un peu de ballon, mais il a été très propre, machin et tout. Tu peux dire, oui, Donovan Mitchell va se réveiller. Oui, peut-être que Donovan Mitchell va envoyer un Donovan Mitchell game. On le souhaite aux Cavs, hein, mais pour l'instant, genre, Toronto le saoule. Hein.
On l'a eu en game 1, fort, mais
oui.
Pour le moment, Toronto
game
le saoule.
Game 2,
fort.
Il a été bon. Non, hein. Les deux premiers matchs à domicile, Donovan Mitchell et Harden, d'ailleurs, font la loi sur le terrain. Donc là, game 6 à Toronto.
Comme tu l'as dit, c'est
d'ailleurs, putain, excuse-moi, bah tiens, on va le faire les deux en même temps. Je t'ai pas demandé. Donc attends, excuse-moi, au game 6 à Orlando, qu'est-ce qui va se passer?
Moi,
à Orlando, j'ai dit. Hein, donc le 3-2, Orlando mène 3-2 et reçoit les Pistons. Alors, vas-y, Bastien, dis-nous l'avenir. Alors, il y a un game 7 à Détroit ou pas?
Toi, t'as déjà ta réponse?
Ouais, j'ai déjà ma réponse. Moi, je pense qu'il y aura un game 7 à Détroit. Un, parce que vraiment, je crois que les Pistons ont les moyens de le faire. Deux, je crois que l'absence de Wagner, quand même, mine de rien, c'est chiant pour
non, Orlando finit le taf.
Et trois, c'est quand même mon pronostic 4-3.
Ah oui, bah,
donc bon, ça, c'est un gros argument.
Alors, moi, de cœur.
4-3 Pistons, j'avais dit, moi.
De cœur, évidemment, tu le sais bien, comme beaucoup de NBA, j'ai envie d'un Game 7. Parce
qu'on a envie de passer un gros dimanche.
Parce qu'on a envie de passer un super dimanche.
Game 7.
Je ne serais pas étonné qu'on essaie de serrer un peu les dents et d'injecter une dose de je sais pas quoi dans Franz Wagner et que Orlando se dise on sait quels sont les probas si on retourne à Détroit. On va pas se mentir. Et mec, les chocottes, hein, t'avais un 3-1 lead et tout. Faut finir là. Je pense que ça va être très 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 physique et qu'on va être plutôt dans le registre Orlando, c'est-à-dire sous la barre des 220 points, tu vois, sur la rencontre. Et que dans ce cas-là, je pense qu'à domicile, ça peut... Tu sais, allez, gros Jalen Suggs. Hop là. Toi, tu dis Game 7.
Game 7.
Ah, et donc là, pour Cavs Raptors, parce que oui, c'est ça que tu voulais faire, je pense. C'est le côté
bah oui, du coup, c'est parce que je me dis, tiens, je vais demander son pronostic à Bastien et je réalise qu'on n'a pas fait le pronostic de la série d'avant. Donc maintenant, donc il y a un Raptors-Cavs, Game 6.
Oui.
Il y a 3-2 pour les Cavs.
C'est une série qui est très serrée. Je trouve qu'il y a énormément de... C'est des petites choses qui font les différences, je trouve, sur l'ensemble de cette série. Et donc, je pense qu'on va aller en 7 à l'image de cette série. C'est-à-dire que si tu perds un carton, tu perds... C'est vraiment des petites choses qui te font
que
perdre
des
cette
game
série.
Game 7, en fait, c'est quoi ces play-offs?
Moi,
c'est
en tout
quoi,
cas,
ce tour, hein,
c'est premier tour, là, pour moi, c'est régalade. Mais moi, j'avoue que j'ai dit plutôt Game 6 finition pour Orlando. Et ouais, je vois bien 7 matchs avec les Cavs qui vont honorer leur avantage du terrain. En fait, j'attends une très grosse défense de Toronto sur le prochain match.
Oui.
Et toi, tu penses que Cleveland finit le boulot?
Oui.
Ok.
Oui, j'aurais plutôt dit l'inverse pour le coup de toi. Oui, parce que je pense que, ok, oui, Toronto va défendre dur plus fort. Je pense que Cleveland peut défendre beaucoup mieux. Attention, ils ont vraiment pas bien défendu. Sûr. Donc eux aussi sont capables. Et voilà, en fait, et oui, il y a des cas de figure. En fait, je vois plus de cas de figure où les deux équipes resserrent la défense. Et en fait, malgré une défense resserrée, on a un Donovan Mitchell un peu chaud, un peu machin, qui fait le taf, qui fait ce qu'il faut, avec un Harden toujours aussi propre et un Mobley dans la lignée de son game 5. Et en fait, bah, c'est des choses auxquelles Toronto, pour peu que Ingram soit pas là ou vraiment diminué, va avoir du mal, avec lesquels Toronto va avoir du mal, à mon avis, à rivaliser. Donc ouais, moi je mettrais plutôt Cleveland qui finit, et par contre les Pistons qui ramènent la série chez eux.
On va terminer avec la dernière série, nos amis les Rockets face aux Lakers, c'était hier soir. Avant ça, juste je vous donne une autre info, car on aime bien faire des petites infos lancées. Qu'est-ce qui se passe dans un mois, Alex?
L'incroyable Brocante Sport revient pour une nouvelle édition. Vous connaissez le concept, cette année la formule change un petit peu, puisqu'on s'installe pour 2 jours au même endroit, à Lille.
C'est un week-end 100% lillois.
Ouais. 30 et 31 mai, le samedi 10h-19h et le dimanche 10h-18h ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça ouvre à 10h. L'événement est gratuit, l'entrée est gratuite. C'est au Jost, vous avez l'adresse là sur l'affiche. C'est un hôtel avec des grands espaces événementiels, de quoi manger, boire sur place évidemment. Et surtout, beaucoup de stands avec plein de maillots, de la casquette, de l'écharpe. Il y aura un coin, et vous savez maintenant, hein, il y aura un coin spécial carte. Je vous dis pas tout, mais... ça va piquer très très fort au niveau carte, ça va être très cool. Et voilà, et 2 jours au même endroit, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que au même endroit, des gens puissent soit venir ou le samedi ou le dimanche en fonction de vos dispos à ce moment-là. Donc voilà, le Nord, ça on est là vrai. Pendant 2 jours, les Belges venaient, les Lillois, les Roubaisiens on dit,
les habitants de Roubaix.
Les Calaisiens excusez-moi.
La Calice.
Non, les Calaisiens.
Les Calaisiens, les habitants.
Les Lensois. Enfin bref. Voilà.
Venez.
Venez. L'événement est gratuit, très cool. Il y aura beaucoup d'exposants et de stands avec des trucs différents, comme d'hab, vous le savez, un peu pour tous les goûts en termes d'objets, un peu pour toutes les bourses en termes de prix.
Absolument.
Voilà.
Vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux de Incroyable Brocante Sport, sur ouais. les médias de trash talk.
Les médias de trash talk de SoFoot. Hein, c'est encore,
de SoFoot,
encore une fois, c'est une production SoFoot X Trash Talk.
Absolument. Il va y avoir plein de choses. Donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question parisienne, oui, après du Grand Contrôle, là, on va à Lille. Donc
ouais.
C'est l'occasion.
On s'installe 2 jours.
Peu.
En fait, la formule sur 2 jours nous donne envie d'être tenté après 4 années de brocante tous les ans. Puis après, on verra, on va voir comment la brocante va évoluer.
Ça accueille,
mais
sinon.
Voilà, 2 jours au même endroit à Lille, viendez. On va être là avec Bastien et tout. Il y aura pas mal de gens de l'équipe Trash Talk, l'équipe SoFoot.
Ah oui,
bref,
ouais. Ça va être du gros week-end de
et
sport.
Voilà, après, je peux pas tout spoiler tout de suite,
non,
mais il y a
mais...
de la petite surprise de prévu quand même.
Tout à fait, gros week-end de sport.
Gros week-end de sport avec un petit samedi soir qui risque d'être bien chargé aussi.
En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Lille, Alex.
Oui, c'est vrai que ça fait hyper longtemps. Ça, là, quand, au moment où on parle, ça fait déjà 10 jours qu'on n'est pas allé à Lille, dis donc. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais le 30-31 mai?
Ouais, voilà.
Eh ben moi, je serai à l'Incroyable Brocante Sport. Voilà, vous avez toutes les infos à retrouver dans les prochains jours. On va bombarder au niveau des informations. Donc voilà, si vous êtes de Dijon, vous prenez des places pour l'apéro collector le 21 mai. Et si vous êtes de Lille, vous foncez à l'Incroyable Brocante Sport le week-end du 30-31 mai. C'est comme ça avec Trash Talk, c'est magnifique.
Exactement.
Les Parisiens, vous inquiétez pas, il y aura d'autres annonces par la suite. Ce sont les playoffs qui continuent.
Les Parisiens, ils sortent à peine du Grand Rex, là. Je veux dire, ça va. Voilà, tout va bien.
Tu connais. Bien. Allez, on termine avec nos amis les Lakers qui menaient 3-0 dans leur série.
C'est pas la moitié d'une série, ça. Hein.
Et aujourd'hui, messieurs, dames, les Lakers ne sont toujours pas qualifiés pour le tour suivant. Les Rockets are still alive. Ça commence à transpirer un peu.
Bah,
on retourne dans
Houston,
le Texas.
Hein.
Exactement. 3-0. On avait vécu le traumatisme de la fin du Game 3 à Houston avec Jabari Smith et Reed Shepard qui perdent des ballons atrocement et les Lakers qui sont clutch en overtime. Game 4 avec une belle réaction de la part de nos amis de Houston. Et des belles déclarations, un petit peu osées, mais on bombe le torse côté Alperen Sengun, Jabari Smith et compagnie. On va aller à Los Angeles, on va aller remporter ce match, on va faire le nécessaire et on va faire transpirer un peu ces Lakers. Parler, c'est bien. Agir derrière, c'est encore mieux. Victoire de Houston, 99-93, avec du bon boulot de la part de ces jeunes. Il y avait encore Kevin Durant d'absent. Et
c'est ça, voilà. Attends, pardon, excuse-moi. Il y avait encore Kevin Durant d'absent. C'est hyper important de le dire.
J'allais te lancer sur 2 éléments. 1. Kevin Durant absent. 2. Austin Reeves est de retour.
Austin Reeves de retour, que plutôt réussi son retour en termes d'impact et tout. Après, au terme de réussite au tir, on n'en est quand même pas là. Hein,
non, ça. Non, mais.
L'entrée en jeu, quand il met le gros 3 points de très loin et que derrière il drive.
Début de match de Austin Reeves.
Oh la vache, tu étais là, tu fais oh là 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 là. Et en fait, ça s'est beaucoup calmé. La défense s'est adaptée aussi. Hein, attention, la défense des Rockets, on va en parler.
Et puis, il n'a pas joué depuis 3 semaines, donc il n'a sorti qu'en fin de match.
Exactement, manque de rythme et tout. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, même s'ils ont perdu ce match, c'est une bonne nouvelle quand même pour les Lakers de voir qu'Austin Reeves peut courir bien. Il n'a pas l'air gêné, il a l'air assez bien.
Il a l'air assez bien, sachant que pour ceux qui ont peut-être pas vu les infos, on les a balancés sur les réseaux. Très grosse incertitude sur Luka Doncic s'il y a une demi-finale.
Ça c'est bon. Après, faut voir. Effectivement, maintenant, on est dans le si il y a une demi-finale. Parce que il va falloir le finir ce 3-0. Attention, attention à pas être la première. Enfin bref, on verra bien. On n'en est pas là. Que dire sur ce match ? Plein de choses. La première, c'est
adoré.
Moi j'ai bien aimé aussi. C'est un vrai Rockets game dans le sens où c'est un match un peu haché, c'est un match à faible scoring, les deux équipes sous les 100 points, c'est un match dans lequel la marque est très répartie côté Rockets, c'est-à-dire que t'as tout le 5 majeur à plus de 10 points, Şengün n'est que le 4e scoreur du 5 majeur, sans forcer. Şengün, combien de tirs il a pris Şengün ?
Non, il a distribué, il a pris que 9 tirs.
Il a pris que 9 tirs, Alperen Şengün, il a pris du rebond, il a distribué 8 passes décisives, c'est vraiment... En fait, c'est un match à 14 points seulement de Şengün. Si tu regardes ça comme ça, tu dis, vas-y et tout. En fait, c'est un excellent match d'Alperen Şengün. Je sais, vous allez me dire, on aurait pu le trouver plus agressif par moment et tout. Peut-être, c'est vrai. Mais
leader.
Franchement, bien kiffé. Ouais, moi aussi.
Leader, moi, je trouve
il a été là quand il a fallu se donner et tout. On a un très bon match au shoot de Monsieur Jabari Smith.
Ouais, tout à fait.
Ça, c'est important de le noter parce que ça fait beaucoup de bien aux Rockets, ça fait beaucoup de mal aux Lakers. Ils n'ont pas trop de solutions là.
Hey, attention,
on va faire quoi là ?
Dos au mur, les Rockets. Hein. T'es jeune comme ça là. Tu débarques à Los Angeles, t'es mené. Si tu perds le match, tu vas en vacances. Et Jabari Smith, il t'envoie 22 points à 4 sur 9 à 3 points. C'est une grande perf de grand garçon.
Grande perf de grand garçon.
Ce qui fait plaisir parce que Jabari Smith, souvent pareil, c'est celui sur lequel on va taper en premier. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait répondu présent. Le 5. Global,
il a contribué en défense et tout, hein. Jabari Smith, il a fait un vrai match. Hein.
Tout à fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que déjà, j'ai le sentiment, et en voyant ce qui se passe sur la série, il y a eu quand même quelques ajustements qui ont été faits par Ime Udoka, qui ne sait pas parfois s'il y a Kevin Durant, pas Kevin Durant. Là, notamment, on avait vu un début de série très très fort de Luke Kennard, où en fait, on a décidé d'arrêter les conneries, et notamment mettre parfois du Amen Thompson à la culotte.
Là, on entend moins parler. Hein.
Ah là, Luke Kennard, c'est compliqué.
Wesh! Là, c'est pas compliqué, c'est que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Il n'arrive plus à exister.
C'est difficile quand t'as un des meilleurs défenseurs extérieurs de la planète sur ta culotte. Il a joué 31 minutes, il a pris 4 tirs, il n'y en a aucun qui est rentré. Et dont 2 à 3 points. Donc, premier ajustement là-dessus. Parce que
en
côté...
30 minutes ou quoi sur le terrain,
tout à fait.
Je veux dire attention. Hein,
parce qu'en fait, tu as un bon match, même un très bon match de DeAndre Ayton côté Lakers,
ouais,
qui a été
vrai
très
match.
Bon, solide. On a un LeBron qui a essayé quand même de se dépatouiller au milieu de cette défense des Rockets.
Le vrai problème de LeBron sur ce match, c'est qu'il n'y a rien qui rentre de loin.
À
des moments où ça aurait fait beaucoup de bien à son équipe, dans un match que tu perds que de 6. T'as LeBron qui est à 0 sur 6 de loin.
Eh oui.
Ça fait mal. T'as aussi t'as LeBron à 0 sur 6 et tu as, que je dise pas de bêtises, Austin Reeves c'est 4 sur 16 au tir, hein, au final. Donc, dans un match que tu perds que de 6, c'est très énervant ça pour les Lakers, mais c'est un motif un peu d'espoir.
Tout à fait.
Où tu peux te dire, parce que en dehors de ça, le match à la distribution, le match dans l'agressivité d'un mec comme LeBron ou d'un mec comme Austin Reeves, c'est des vrais matchs, quoi.
Oui, ça, et même Marcus Smart, il a fait
Marcus
ce qu'il fallait,
Smart,
c'est-à-dire
qu'il
met ses 3 points, il défend dur. Donc, côté Lakers, en effet, le plus gros sujet, c'est ce retour d'Austin Reeves, à voir s'il peut être très très fort tout de suite et retrouver une grosse production dès la vendredi sur ce Game 6.
Moi, j'y crois.
Qui est fondamental. Il faut y croire, lui laisser du temps, mais en fait, il faut avoir les deux côtés, quoi. C'est-à-dire que LeBron, quand il est extraordinaire, incroyable, 41 ans, et LeBron aussi, avec toutes les responsabilités qu'il a, quand ça devient dur là à 3 points, notamment sur un match où moi je l'ai trouvé sur les derniers 3 points de la fin de rencontre, c'était un peu dur, ça commence à... tu vois, ça tire quand même vu les responsabilités. Bah là aussi, il a les 41 piges qui se sentent.
Oui,
donc...
oui, non mais bien sûr, complètement.
Et pour Austin Reeves, il peut retrouver offensivement son rythme, il en a toutes les capacités, et en même temps, le mec n'a pas joué depuis 3 semaines, et la défense aussi s'ajuste en face. Donc les Lakers ont vraiment laissé passer une opportunité parce que Houston, moi j'étais à 6h du mat devant le 4ème quart, quand Houston a 7, 8, 9 points d'avance là.
Ouais. Ouais.
Le public se lève, il commence à y avoir du moins. À un moment, on revient à une possession, les Lakers.
Oui.
Et tu es pas loin d'un éventuel choke comme on avait pu voir sur le Game 3. Mais là, ils ont été bien, là, les Rockets, ouais. Ça, j'ai trouvé.
Les Rockets ont été bien, ils ont tenu bon, ils n'ont pas lâché leur plan défensif. Ils ont eu les quelques petits paniers qu'il fallait mettre, ils les ont mis. Et en face, Austin Reaves et ou LeBron n'ont pas mis les gros tirs qui auraient permis de tout
ouais.
changer.
Ouais,
donc après, c'est ça aussi les matchs de play-off. Les Rockets sont allés la chercher, celle-là. Moi, je trouve que c'est surtout ça qu'il faut retenir.
Bah,
On verra quel visage garçons. Ils vont proposer au match 6. On verra quel visage vont proposer également les Lakers hein,
oui.
au match 6. Mais en tout cas, celle-ci, les Rockets vont la chercher et pas juste la chercher genre mental et tout, c'est tactiquement aussi.
Oui.
Ils sont allés la chercher tactiquement, il y avait un vrai plan de jeu. Il y a évidemment après tu as des facteurs qui jouent dans ton sens, c'est-à-dire qu'effectivement Jabari Smith qui là commence à faire tomber dedans, mais Tarizon a plutôt bien shooté également. Enfin, en fait, c'est un assez bon match au shoot de la part des Rockets, là où les Lakers font un match bien cradingue notamment de loin. Donc c'est de la variance, ça existe, mais ce qui est intéressant pour les Rockets, c'est qu'ils ont mis un plan de jeu en place, ils l'ont bien respecté et il a fonctionné, ou en tout cas il les a mis en position de gagner.
Oui, tout à fait. Et
ça c'est bien.
Et on avait parlé sur les matchs précédents d'un aspect qui faisait peur de manière assez logique, hein, puisque le Game 3 c'était vraiment l'appel de, enfin c'était vraiment les cerfs en plein phare dans la nuit, c'était que donnent ces Rockets dans une fin de match serrée. Et là où j'ai vraiment aimé l'abnégation de ce groupe hier soir, c'est que quand le public se lève, qu'il y a moins 3, qu'on ressent certaines limites offensives parce qu'on arrive sur des fins de shot clock, qu'on ne sait pas si ça va être un push shot de Amen Thompson ou un rebond offensif de Tarizon, il faut la ressortir. Wow, mais en fait,
Shane Goon qui va essayer un petit hook ou quoi là, ouais.
etc. Et ben tu as un du fight au rebond offensif parce qu'ils reviennent sur leurs principes fondamentaux, c'est ouais. que Houston est très fort à ça. Deux, je suis le premier à le critiquer parce que parfois ça va pas et qu'il a un gyrophare sur le crâne, mais Reed Shepard de la fin de match, il y a du très gros bucket à mi-distance, il y a de la pulsion pour aller vers l'arceau pour essayer de créer des mouvements défensifs, et il y a cette interception sur LeBron. Les 4 points que met Reed Shepard là, sur la fin là, c'est l'équivalent d'une usine à oxygène pour les Rockets. Et vu qu'il a été souvent critiqué, parfois juste titre, je veux lui rendre ça aussi. Et l'ami aussi Amen Thompson, c'était la soirée des frères Thompson, hein, parce qu'entre Ossar et Amen, ça a envoyé du gros bois hier soir. Là, les deux, là, quand ils sont comme ça, bah, on retrouve les frères jumeaux qui sont capables de grosses choses. Il a quel âge de moyenne ce 5 majeur hier soir, Houston?
C'est jeune, hein.
Jabari, il a moins de 25
22,
ans.
Ouais.
Tarizon, il a moins de 25 ans. Shepard, il a moins de 25 ans. Amen Thompson, il a moins de
25 ans. Là,
il y a peut-être Shane Goon qui en a 25.
Non.
Même pas.
Ah bon?
Allez.
Il Alpi. A 25 ans, Shane Goon?
Alpi, il en a 23.
23, voilà, c'est
et
ça.
Il a 3 piges. Donc, dos au mur.
Non, c'est propre ça.
Tu vas aller chercher cette win.
Je suis d'accord.
Moi, je dis que tu as le droit de te dire, franchement, hé. Hey, on était mené 3-0, là on a quelque chose dans le dos là.
Le seul point où je mettrais un bémol par rapport à ce que tu as dit, c'est le rebond. Tu vois, moi j'ai pas trouvé le rebond et les stats d'ailleurs vont pas dans ton sens, il me semble.
Non, c'est le
dans,
fight de fin de match.
Dans le sillage, ouais, mais tu vois justement, c'est un truc sur lequel les Rockets peuvent complètement progresser parce que tu as raison, c'est une vraie équipe au rebond. Mais dans le sillage de ce très gros Ayton, et tu as aussi des gars comme je sais pas qui a pris des rebonds côté LeBron évidemment, tu vois, et plus tu vois Austin Reaves, il a pris un peu de rebond et tout. Les Lakers ont fait des vrais efforts dans ce, d'ailleurs ça les tient dans le match par moment. Tu vois Ayton qui prend 10 rebonds offensifs quand même dans ce match.
Ah oui, non, mais
10 rebonds offensifs d'Ayton.
Il y avait de chaque, hein, dans la raquette.
Genre, ouais, voilà. Et donc ça, c'est un sujet que les Rockets peuvent mettre sur la table en préparation du Game 6. Je suis pas sûr que tu aies très envie de que Ayton te massacre comme ça et redonne des secondes chances à des LeBron et des Austin Reaves parce que ça peut... Ah, t'as gagné que de 6, quoi. Genre, ça se joue à pas grand chose.
Ouais,
donc,
c'était juste
mais,
sur la fin de match.
Mais par contre, je suis d'accord. Sur la fin de match, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Reed Shepard, notamment. Moi, j'ai bien aimé le comportement de Shane Goon aussi en fin de match. Enfin, vraiment, c'était ces jeunes Rockets-là ont fait le boulot à l'extérieur, dans un match à élimination. Et ils ont gagné le droit de revenir à la maison. Alors, ça sera toujours un match à élimination pour eux. Hein. C'est ce qui arrive quand t'es mené 3-0. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Quand t'es mené 3-0, il n'y a plus que des matchs à élimination. Hein. Déjà, ils viennent d'en jouer deux. C'est déjà beau.
Exactement. Et ceci étant dit, dans l'histoire,
vas-y,
comme vous voyez,
les stats.
Aucune équipe n'a jamais remporté une série de playoffs après avoir été menée 3-0. Est-ce que les Rockets peuvent réaliser le plus grand comeback de l'histoire? Alors, évidemment, et d'ailleurs, première défaite, c'est quoi que j'ai vu passer? Première
Dis-moi.
Défaite en 18 ans de playoff, LeBron, première défaite dans un Elimination Game à domicile. Parce que normalement, quand LeBron il a mangé à domicile,
Elimination Game de l'équipe adverse,
l'équipe
tu veux
adverse,
dire
ouais, ouais. Normalement, ça graille. Hein.
Bah, tu vois pas là.
On n'a jamais vu une équipe. On a vu récemment, finale de conférence Boston-Miami, Boston revenir à 3-3. Et ça force le Game 7. Et c'est un Game 7 qui est tragique pour les Celtics.
Je crois qu'il y en a 12, 13 ou 15 dans l'histoire, ouais, c'est comme ça.
On a eu ce match-là avec Haywood Highsmith, Bam Adebayo, Mancus sur la commode, Caleb Martin, Jimmy Butler. Enfin, c'était fou. Miami menait 3-0. Jalen Brown dit de manière assez.
Faut pas nous en laisser un.
Nous n'en laissez pas un, etc. Tout à fait. Mais ça a échoué. Alex. Déjà, est-ce qu'on va retourner à Los Angeles ? Pour moi, oui.
Moi aussi.
Game 7 ! Le week-end de Game 7 !
Ouais, je suis assez
on
d'accord.
On y retourne ?
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que les Lakers sont atteints dans leur plan de jeu. T'as dit 4 ? De toute façon, moi, j'avais dit genre 4-1 Rockets, moi, je crois, j'avais dit, moi.
Moi, j'avais 4-3 Rockets.
Moi, parce que les Rockets, bon. Le type de match de la nuit dernière que les Rockets viennent de faire... Pour moi, c'est à ça que ressemblait la série. Plus
après, une série, c'est long, il y a des ajustements.
Et ouais, tout à fait. Mais donc, ouais, je vois bien le Game 7. Moi aussi, j'ai l'impression que les Rockets, ça va bien les booster. Après, il faut faire attention parce qu'ils ont en face d'eux une équipe qui a un plus d'expérience qu'eux et qui finalement peut s'appuyer sur pas mal d'éléments de cette défaite en se disant, les gars, notre plan de jeu, il n'était pas si mauvais. Juste, vas-y, Austin Reeves, prends bien le temps de te mettre en rythme. Et t'inquiète pas, Luke Kennard, on va te trouver, JJ Redick, on va réfléchir. On va te trouver des espaces différents parce que c'est vrai que l'autre mutant, quand il est sur toi, c'est un petit peu relou. Tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est que c'est une défaite pour les Lakers. C'est un vrai bonne bouffée d'oxygène pour le moral des Rockets. Mais après, quand tu la regardes froidement, si t'as un coaching staff et tout, tu regardes froidement cette défaite, tu dis ok, il y a des vrais trucs sur lesquels on sait qu'on peut faire vraiment mieux.
Tout à fait.
Donc ça va être un sacré match. Ça va être un game 6, ça.
Est-ce
attention.
Que LeBron va enterrer avec ses copains les Rockets chez
ouais,
eux.
Ouais, ou est-ce que c'est un Austin Reeves game là? Parce que attention, je sais qu'il y a Amen Thompson et tout, mais Austin Reeves.
S'il décide.
Tu vois, hier il shoot très mal, il arrive quand même à mettre quoi, 22 points ou un truc comme
ouais,
ça.
Un truc comme ça.
Il shoot mal. Hein.
Oui, bien
ça
sûr,
rentre pas, hein.
Parce qu'il allait aussi provoquer.
Il va au lancer, ouais, mais du coup c'est un sujet. C'est une arme, c'est tellement une arme en plus.
Et que c'est différent au Staples que ça l'est quand tu es. Enfin, Staples, pardon, au Crypto.com.
Ça pose un problème pour faire jouer Rich Shepard, même si c'est très bien battu. Enfin, du bien coup, sûr. C'est. Hyper intéressant, Game 6 hyper ouvert pour moi, mais je suis d'accord avec Bastien, je te suis sur celle-ci, je pense qu'il y a un Game 7, de toute façon je pense que vraiment on va avoir un week-end avec plusieurs Game 7, ne vois pas comment c'est possible autrement, si on n'a pas de Game 7, je suis très très surpris.
Moi aussi, je serais assez surpris, je rappelle le programme, parce que là pour avoir des Game 7, il faut déjà se farcir les Game 6,
ça commence
dès ce soir, je vous remontre, ce soir, soyez branchés, est-ce que les Knicks terminent le travail à Atlanta ? Fort probable, nous on a dit que ça terminait plutôt le boulot avec une victoire des Knicks. Sixers Celtics, attention, on va voir, hein, après l'arc Joel Embiid de retour, est-ce que Philly fait caca dessus et surtout Wolves Nuggets, la dernière chance peut-être pour Minnesota, pas de Dante DiVincenzo, pas de Anthony Edwards, est-ce que toute l'armée de Minneapolis se donne à fond pour essayer de sortir ces Nuggets, ça va être énorme. Et donc vendredi soir, Magic Pistons, Raptors Cavs et Rockets Lakers, complètement fou les deux prochains jours là déjà, pour voir, il y aura évidemment des réactions à chaud, et ou sinon si on ne débriefe pas, c'est qu'on sera déjà en train de basculer sur la preview, parce que si ça se trouve, Alex, demain on est en capacité de tourner peut-être un Spurs Wolves.
Oui,
eh
oui.
Si Minnesota finit le travail, alors,
demain,
on a un Spurs Wolves.
Excuse-moi, je me remets. J'étais en train de réfléchir justement. En fait, il n'y a que cette série-là, sauf si les Knicks et les Celtics font le taf. Auquel cas, on aura un éventuel Celtics-Knicks.
C'est ça.
Mais si jamais tu as les Hawks ou les Sixers qui prennent le Game 6, on n'est pas prêt. Enfin, c'est sûr que là, on a un premier tour de play. Alors, on n'a pas toujours les matchs les plus beaux.
Non, je te dis, les performances ne sont pas incroyables, mais c'est serré.
Et... il y a des belles performances. Tu parlais des performances collectives. En fait, c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Tu parles des performances individuelles ou des performances collectives?
Performances individuelles. On n'a pas des. Là, on s'est extasié parce que Paolo Banchero et Kate Cunningham ont fait des dingueries. On a adoré le fait de voir LeBron mettre des gros buckets sur l'ensemble des playoffs. On n'a pas eu des explosions comme quand on était en mode waouh, que se passe-t-il? Il y a des mecs qui mettent des 40, des 50 points et tout.
Pour que Luka Doncic est blessé.
Luka
est blessé. Et Wemby est tombé, s'est tapé la tête.
Absolument.
Anthony Edwards a mal au genou.
Oui. Puis t'as pas certains.
On a des performeurs qui sont absents.
T'as pas
également.
Les Warriors qui sont là, donc
voilà,
coup,
ouais, bien sûr. Donc bon, ok, donc c'est ouais, franchement j'ai hâte là, je suis là à chaque fois, je suis là, je fais bon, qu'est-ce que je regarde, comment je m'organise, qu'est-ce que donne la nuit, qu'est-ce que je regarde demain matin, qu'est-ce que je regarde en direct.
Ah bah là, désolé ma chérie, mais là, le week-end du Pro MMA, là, c'est...
Ah, le week-end du Pro MMA, de toute façon, il est occupé, là.
Exactement. Sur ce, on vous attend dans les commentaires, parce que vous aussi, dites-nous ce qui va se passer sur ces deux prochains jours de NBA. On se retrouve probablement demain, en fait, pour refaire du débrief.
Exactement.
Des gros bisous à toutes et à
bisous
tous.
Tout le monde.
Ciao.
Ciao.